Séquence Midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30 13h sur le 95.9.
Bonjour, merci d'être au rendez-vous de Séquence Midi, votre émission d'actualité en direct du lundi au jeudi de 12h30 à 13h avec vos découvertes musicales, votre agenda, votre rendez-vous cinéma du mercredi et bien sûr vos invités. Aujourd'hui, une émission basée sur la santé. Côté recherche, ce sera en seconde partie d'émission, mais d'abord côté santé mentale, en compagnie d'Elsa Larbalette qui est psychologue en libéral dans l'Indre et salariée dans la Vienne. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour évoquer la mobilisation des psychologues à travers toute la France contre le dispositif Mon Soutien Psy. Alors peut-être qu'il faut repréciser pour nos auditeurs, auditrices, simplement, qu'est-ce que c'est ce dispositif Mon Soutien Psy et quels étaient les objectifs au départ affichés ?
Alors c'est un dispositif qui a été créé post-Covid en fait, il y a 3 ans environ, et qui a été présenté par le gouvernement comme une réponse à un besoin en santé mentale de la population.
Et alors, en quoi ça consiste concrètement ? Ce sont des séances qui sont remboursées
Voilà, tout à fait. En fait, il y aurait... Donc le dispositif a un petit peu évolué depuis le début. Actuellement, il y aurait 12 séances remboursées à hauteur de 50 euros chez un psychologue qui serait conventionné, donc qui aurait passé une convention avec la Sécurité sociale.
Donc l'idée au départ paraît bonne, c'est pouvoir faciliter l'accès aux soins psychologiques. Pourquoi les psychologues se mobilisent contre le dispositif ?
Alors déjà, il faut rappeler qu'effectivement, il y a quand même 9 psychologues sur 10 en moyenne qui boycottent le dispositif. Donc c'est un très grand nombre. Et effectivement, ça peut sembler surprenant parce que nous ne sommes pas contre le remboursement. Bien au contraire, c'est quelque chose qui permettrait à un grand nombre de personnes de consulter a priori. Mais en fait, il y a un grand nombre d'arguments qui font que nous sommes opposés au dispositif tel qu'il a été pensé. Et d'ailleurs, on peut dire qu'il a été quand même pensé sans les psychologues. Je viens un petit peu porter la parole de différents collectifs, donc notamment le Syndicat national des psychologues, le Manifeste des psychologues et la Convergence des psychologues en lutte, qui tous les trois font beaucoup de prévention par rapport à ce dispositif et nous encouragent justement au boycott du fait des différentes mesures qui sont comprises par ce dispositif.
Alors on va essayer de comprendre en détail qu'est-ce qui vous chiffonne dans ce dispositif. Il y a d'abord le côté un peu consommation, on va dire. En tout cas, il y a un nombre de séances limitées et ça pose problème.
Voilà, c'est-à-dire que ça sous-entend que les suivis brefs, les thérapies brèves, prévaudraient sur les suivis longs. Ça sous-entend aussi que le psychologue qui recevrait pendant une longue période ses patients serait inefficace. Il y aurait l'idée quand même d'une consommation dans la mesure où on souhaite que les personnes se remettent sur pied rapidement et puissent de nouveau être opérationnelles en fait. Et donc ça, c'est un premier point, mais qui, du coup, en comprend d'autres. Alors déjà, le dispositif nous dit que ce serait pour tout le monde, ce qui est tout à fait faux, puisque il y a 3 millions de Français aujourd'hui sans mutuelle, et ils ne pourraient pas se voir rembourser les séances chez un psychologue conventionné. Ça, c'est déjà un point important. Et en plus de ça, il y a un grand nombre de critères d'exclusion. Donc, par exemple, on nous dit les personnes qui pourraient consulter, ce seraient celles qui auraient des troubles anxieux légers à modérés, mais sans que ça se base sur une quelconque classification reconnue. Et puis, en plus, nous, on refuse complètement qu'il y ait une telle distinction des souffrances.
Alors, l'autre difficulté aussi, c'est même pour ceux qui accepteraient, qui ne boycotteraient pas le dispositif, vous n'êtes pas assez nombreux et nombreuses aujourd'hui en France.
Vous voulez dire à...
Le nombre de psychologues, en fait. Non, même oui. Aujourd'hui, on a même des difficultés à accéder à un psychologue, même en dehors du dispositif, je veux dire.
Oui, alors l'offre en libéral est peut-être un peu plus importante que l'offre hospitalière, il faut le dire, bien que dans les déserts médicaux, les psychologues sont aussi plutôt absents, donc l'offre ne suit pas la demande. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'effectivement, il y a des services qui seraient, alors non pas gratuits, au sens propre du terme, mais des services hospitaliers, c'est-à-dire qu'on peut accéder à du soin sans débourser un euro aujourd'hui. Donc dans les centres médico-psychologiques pour les adultes et les centres médico-psychopédagogiques pour les enfants. Le problème, c'est qu'effectivement, il n'y a pas assez de professionnels dans ces lieux-là. Et donc, il y a souvent des listes d'attente très, très longues, parfois jusqu'à 2 ans hein, pour des enfants. Donc, on imagine à quel point les troubles peuvent s'aggraver en 2 ans, y compris pour un adulte qui serait sans solution.
C'est vrai que vous êtes d'ailleurs à la fois salarié et en libéral, ce qui vous permet peut-être justement de pouvoir témoigner de ces difficultés-là.
Oui, effectivement, ça donne 2 regards différents, bien que je ne sois pas en centre hospitalier, mais j'entends quand même beaucoup de mes confrères et consoeurs souffrir hein, des difficultés qu'ils rencontrent au niveau de l'hôpital et du désœuvrement aussi de ces services-là.
Alors, il y a un article du Monde qui montrait un taux d'abandon élevé dans le dispositif. Comment on peut interpréter ce chiffre-là ?
Un taux d'abandon
dans le dispositif Mon Soutien Psy, en fait, que les gens commenceraient et n'iraient pas au bout du nombre de séances proposées.
Alors ça peut s'expliquer un peu de la manière suivante, c'est-à-dire qu'effectivement les gens ne sont pas dupes de cette idée d'une consommation de soins. Et puis ils ont un petit peu rehaussé le prix de la consultation, mais il faut dire que ça ne correspond pas forcément aux tarifs qui sont pratiqués partout. Et bon, par exemple, dans les grandes villes, le tarif de 50 €, ça peut être assez dérisoire pour un professionnel. Et donc ça oblige à réduire le temps de consultation aussi. Donc en fait, on vient à rogner sur la qualité du soin pour privilégier la quantité.
Alors le gouvernement a mis en avant l'augmentation du nombre de séances remboursées, parce que ça faisait partie des choses que vous pointiez du doigt. Est-ce que ce n'est pas forcément suffisant comme démarche ?
Vous voulez dire les 12 séances, ce ne serait pas suffisant ? Ben alors effectivement, peut-être que pour certaines personnes, ça sera suffisant. Peut-être que certaines personnes ont besoin de consulter dans le cadre d'une thérapie brève et que ça leur conviendra. Mais on peut dire quand même que 12 séances, ça correspond à une séance par mois. Et donc dès lors que les personnes souhaitent approfondir certains questionnements qu'elles ont, consulter de manière régulière pour avoir un soutien pérenne dans le temps, eh bien à ce moment-là, il n'est pas du tout efficient ce dispositif.
On sait que 2025 était une année consacrée justement à la question de la santé mentale. Voilà, quelles seraient pour vous un peu quelle est la situation de la santé mentale en France ? On sait que ça va assez mal. Enfin, je ne sais pas, vous qui êtes sur le terrain, vous devez le ressentir.
Disons, alors là, j'aurais pas de chiffres à vous amener, mais effectivement, c'est un constat quand même qui est fait globalement sur le territoire français que les gens ne vont pas bien, qu'ils auraient besoin d'accompagnement.
Oui, c'est. Vous le ressentez, vous, dans votre cabinet
Oui, alors, mais en fait, alors, moi, je travaille, ça fait 7 ans maintenant que j'exerce en libéral. Effectivement, il y a des souffrances qui, depuis le Covid, hein, se sont accentuées, ont été prépondérantes en lien avec cet événement du confinement qui a été pour beaucoup particulièrement angoissant. Mais on peut aussi citer d'autres dégradations qui sont celles du travail. Beaucoup de personnes qui souffrent de leur travail actuellement, et j'ai beaucoup de demandes en ce moment de consultations, de premières consultations en lien avec le travail. Et là, c'est pareil, pour que quelqu'un qui est dans une situation complexe vis-à-vis de son travail puisse évoluer, comprendre ce qui se passe pour elle, aller mieux et peut-être changer de voie ou en tout cas s'autoriser à prendre des décisions qui concernent son activité et sa vie en général, ça peut prendre du temps et on imagine bien que 12 séances, c'est trop vite plié, quoi.
Et quelles seraient pour vous un peu les solutions pour à la fois soutenir le fait d'aller chez un psychologue, que ce soit remboursé, et les propositions de l'État ? Vous, en tant que psychologue, vous le disiez, il n'y a que à peine 10% qui ont accepté de rentrer dans le dispositif, même pas, je crois. Quelles seraient, vous, la bonne situation, les bonnes propositions ?
Alors, pour nous, c'est très clair. Excusez-moi. Pour nous, c'est très clair. On souhaite que le service hospitalier soit plus fourni, donc qu'il y ait vraiment un investissement financier dans les services publics. Parce qu'effectivement, quand on va consulter en centre médico-psychologique, on sait qu'on voilà, on démarre quelque chose, mais ça ne va pas s'arrêter dans 12 séances. Donc ça, c'est déjà un point important. Et puis, ces services aussi sont des plateformes hein, sur lesquelles on peut être réorienté. Et je pense pour les enfants, le centre médico-psychopédagogique, c'est un lieu aussi où on trouve des orthophonistes, des psychomotriciennes. Et la prise en charge pluridisciplinaire, elle est très importante pour des enfants qui présentent des troubles multiples.
Merci beaucoup Elsa Larbalet d'être venue nous parler de ce dispositif effectivement qui ne trouve pas son public au terme de professionnel, qui ne souhaite pas rentrer dans le dispositif, qui ne correspond pas à ce que vous attendez en tout cas. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous l'avez peut-être découverte au Confort Moderne le mois dernier, Théa mélange savamment le punk aux pulsations rêve et aux accents émo-core avec des mélodies ultra-pop et incarne dans ce titre l'urgence d'une génération. Voici Cavale.
Ça me dit un truc. Y'a genre tout Panama, notre rouge. J'ai pris des stats, ils prennent la mouche. Toi et moi, on cramera toute la ville. Toute la nuit, on s'en fout des ciels. Que des chats noirs, des sorcières et des anges hardcore. On traîne au fond des caves et dans tes angles morts. Ce qu'on veut voir écraser, mais qui danse encore. Mal dans son corps, mais on danse encore. Mon cœur est mort, cassé dans le caniveau. Quand poulet d'or a des goûts à l'écrou. La nuit, on sort comme s'il n'y a plus rien à perdre. Tout était fermé, on a enfoncé la porte arrière. C'est la trave et le ped à DTE, on fait la paire. Des cassettes, des concerts, des cases, on sait le faire. On se taille, on fout la merde dans ta scène ou dans ton village. On cavale, on est bête, on accélère dans les virages. T'as pas la vitesse, t'as loupé le train, n'oublie pas. Tout est remis, tu l'appelles, donnez pas l'heure, maintenant ils cry. Tout est remis, c'est des posers, ils me font pas peur, ils sont fans de moi. Avec ma zone, tabasse la scène comme si on l'aimait pas. J'ai compté les cadavres, les pédos, compteurs, zéro CS1. Bâtard voulait me tuer, il est reparti en sale état. Il me faut un château pour ma team comme si je suis Ghostboy Creek. Il me faut un mec en parisien, il me faut un Ghostboy Clit. Il me faut de la drogue dans le jean, il me faut des clubs genre vite. Il me faut une putain de bonne raison de pas te mettre un cut dans le bide. Ça va encore. Il nous rattrape quand on est mort.
Puissance de professionnel, je dirais.
Ça, c'est bizarre.
C'est toi en plus.
Le fonds Alinor a trouvé un mécène en la fondation Sorégie et Emmanuelle de la Valette, directrice de la recherche et de l'innovation au CHU de Poitiers, est avec nous pour en parler. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Alors peut-être il faudrait représenter rapidement le fonds Alinor et son rôle au sein du CHU de Poitiers, son objectif en quelques mots.
Le fonds de dotation Alinor, il a été créé en 2016 pour structurer les actions de mécénat en faveur de la recherche et de l'innovation au CHU de Poitiers. En gros, il nous sert à mobiliser la générosité du public et des entreprises pour nos chercheurs avec trois priorités. D'abord, un soutien transversal à la recherche au CHU dans toute sa diversité. Ensuite, un focus particulier sur les jeunes chercheurs et chercheuses. Et puis, également, une attention particulière à la recherche paramédicale, donc la recherche conduite par les infirmiers, les manip radio, les kinés, qui est un des points forts ou en émergence, en tout cas, au CHU de Poitiers.
Donc depuis 9 ans que le fonds Alinor existe, est-ce que vous pourriez nous parler peut-être de résultats concrets qui ont pu, voilà, des recherches concrètes qui ont pu être financées grâce à ce fonds ?
Déjà, au plan financier, le fonds Aliénor a pu reverser plus de 2 millions d'euros au CHU de Poitiers pour financer 28 projets qui ont été sélectionnés par un appel à projets. On a 15 projets qui sont encore en cours. Quelques succès, quelques histoires remarquables. D'abord, Xavier Drouot, qui a créé un dispositif médical de monitoring du sommeil en réanimation pour éviter de réveiller les patients de réanimation avec des soins qui peuvent être différés. Entre le moment où il a conduit son projet avec Aliénor et maintenant, eh bien, il y a une start-up qui a été créée. On a également le professeur Leveziel qui travaille sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Un des premiers projets accompagnés par le fonds Aliénor, c'est une recherche qui s'est développée, qui donne lieu maintenant à des partenariats industriels avec des entreprises. Le projet de Thomas Kerforn qui concerne la qualité des greffons rénaux et la transplantation d'organes avance bien et il va y avoir prochainement des communications dans des congrès scientifiques. Et puis on peut également citer les recherches de Mathieu Egloff qui travaille sur l'autisme avec une démarche maintenant de valorisation de dépôt de brevets dans son domaine. Voilà.
Alors, qu'est-ce qui a motivé le partenariat avec la Fondation Sorégi, peut-être des valeurs communes qui vous ont rapproché?
Alors à l'origine, il y a le souhait de la Fondation Sorégi d'avoir une action de mécénat qui puisse parler à ses collaborateurs. Et puis, ce partenariat avec le CHU de Poitiers, il est intéressant parce qu'il y a trois points d'ancrage, à mon sens, entre nos deux établissements. Il y a d'abord un ancrage historique et territorial qui est important et pour le CHU et pour la Sorégi. Il y a ensuite l'exercice d'une mission d'intérêt général dans les soins et dans la distribution d'énergie. Et puis également, il y a une attention à l'innovation. Naturellement, au CHU de Poitiers, l'innovation médicale et scientifique. Et puis au niveau de la Sorégi, on sait qu'ils ont une attention particulière à l'innovation dans le cadre de la transition énergétique. Voilà.
Et alors ce mécénat, c'est 250 000 euros sur 5 ans. Comment ça va soutenir concrètement la recherche au CHU?
Alors ces 250 000 euros, ils sont dédiés à un appel à projet annuel qui est lancé par le CHU, qui est dédié aux jeunes chercheurs. Donc cet appel à projet, il existe depuis 3 éditions et il a pour objet de renforcer l'attractivité du CHU de Poitiers pour les jeunes chercheurs et également de fidéliser ces jeunes chercheurs au sein de l'établissement. Alors ces 50 000 euros, ils permettent de financer un projet qui est un projet preuve de concept qui permet aux jeunes chercheurs de recueillir des données préliminaires pour ensuite aller déposer son projet à des appels à projets plus significatifs, plus importants à échelle interrégionale, nationale, voire européenne, et puis progresser dans son domaine.
Alors on le voit, les jeunes chercheurs, vous y portez une attention particulière. Pourquoi est-ce qu'il y a des difficultés justement à les attirer à Poitiers, à les retenir, à les soutenir dans leurs recherches?
Il y a des difficultés à Poitiers d'attractivité dans l'ensemble pour attirer les professionnels. Et au sein de ces professionnels se trouvent les chercheurs. Alors ce ne sont pas des difficultés spécifiques au CHU de Poitiers. Il y a d'autres CHU qui se trouvent dans cette situation et c'est une difficulté qui est partagée du reste avec l'ensemble du territoire et l'ensemble du secteur public au sein d'un territoire.
Globalement, oui, peut-être la question justement du financement et créer un frein s'il n'y a pas ce genre d'initiative.
Alors, c'est vrai que la recherche est un domaine qui est extrêmement compétitif et là, ça permet quelque part de recentrer la compétition sur un périmètre qui est beaucoup plus petit et donc de permettre aux jeunes chercheurs du CHU d'être en compétition entre eux pour obtenir ce financement.
Voilà. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de la première lauréate de cet appel à projet, donc jeune... Donc ça va s'appeler maintenant Jeune Chercheur Fondation Sorégi.
Tout à fait. Donc le docteur Elena Mosba, elle est médecin en endocrinologie. Elle est maître de conférences, praticien hospitalier au sein du CHU. Elle est responsable d'une structure qui s'appelle le Centre spécialisé obésité, qui a pour objet de prendre en charge sur les territoires de l'ex-région Poitou-Charentes les situations d'obésité les plus complexes. Elle a déposé un projet qui concerne les pathologies cardiaques et rénales qui vont être induites par l'obésité. Et son projet, il a la spécificité de se réaliser au sein de l'entrepôt de données de santé du CHU de Poitiers, qui est un nouvel outil, une nouvelle plateforme au service des chercheurs de l'établissement, qui leur permet de conduire leurs recherches à partir de l'ensemble des données de soins de façon rétrospective qui ont pu être collectées au sein du CHU dans le cadre des dossiers médicaux et des dossiers de soins. Et donc voilà, c'est un des premiers projets internes qui vont être conduits dans cet entrepôt de données de santé qui a reçu il y a quelques semaines son autorisation de fonctionnement par la CNIL.
D'ailleurs, on recevra le porteur de projet la semaine prochaine dans Séquence Midi pour parler de ce projet-là. Et effectivement, pourquoi avoir sélectionné cette chercheuse? La question de l'obésité, c'est, j'imagine, oui, c'est central en France aujourd'hui.
Oui, l'obésité, c'est un sujet qui prend de l'ampleur et... Bon, Elena Bosba, elle a présenté un projet de qualité qui a été sélectionné parmi trois autres projets dans le cadre d'une compétition interne.
Et alors, au-delà de ce grand partenariat donc avec Sorégie, vous le disiez, vous vous appuyez aussi sur la générosité des particuliers. Comment, si des particuliers nous écoutent, comment ils peuvent contribuer et quel sera l'impact de leur contribution sur la recherche?
Ils peuvent contribuer, en donnant la somme qu'ils peuvent donner. Ça, c'est le premier point. Il y a un site internet qui est dédié au Fonds Aliénor et qui présente toutes les informations utiles et notamment tous les projets en cours. Et concrètement, les fonds vont directement du Fonds Aliénor vers le CHU pour financer des projets qui sont sélectionnés par un conseil scientifique. Et donc, les donateurs, que ce soit des particuliers ou des entreprises, ont l'occasion, en diverses occasions, de pouvoir rencontrer les chercheurs et suivre l'avancement des projets. Voilà, il y a une notion de proximité.
Oui, c'est ça.
Et parfois même, ils seront amenés à rencontrer le chercheur au décours d'une consultation médicale au CHU.
Et alors, quels sont les prochains objectifs du Fonds Aliénor? Donc là, on a vu ce grand mécénat. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Quels sont les autres développements à venir?
Notre objectif, c'est de continuer notre croissance, puisqu'on a un besoin de financement annuel qui est compris entre 400 et 500 000 euros. Et donc, pour pouvoir continuer à soutenir nos chercheurs autant qu'ils en ont besoin, il faut qu'on puisse poursuivre cette croissance et puis conserver et augmenter la confiance du public. Et ça veut dire aussi faire en sorte que tous les projets qui sont financés par le Fonds Aliénor, puisque la recherche est un sujet de longue haleine, soient conduits pour arriver à leur terme, à des publications, à des communications et à des impacts concrets à terme sur la santé. Voilà.
Merci beaucoup Emmanuelle de la Valette. Donc vous êtes directrice de la recherche et de l'innovation au CHU de Poitiers. Merci d'être venue nous parler du Fonds Aliénor et donc de ce soutien de la Fondation Sorégie. Merci bien.
Merci à vous.
Demain dans Séquence Midi, on parlera du lancement de l'université franco-ouzbèque et puis on parlera aussi du baccalauréat 2025 puisque c'est en cours. Mais tout de suite, c'est l'heure de votre rendez-vous cinéma avec Candice Mottet-Debert. Bonjour Candice.
Bonjour.
Médiatrice au cinéma Le Dietrich. Et aujourd'hui, tu nous parles d'un biopic musical irlandais.
Ouais, et même c'est un biopic musical irlandais un peu inclassable. On va être sur un mélange de cinéma à la Danny Boyle. On va être avec une vitalité très très forte. Alors ça s'appelle Nick Cap, les casseurs de genoux, tout simplement. C'est le nom éponyme d'un groupe de rap irlandais qui en ce moment est en tournée. Alors, Irlandais du Nord, c'est important à préciser parce que ce sont des gens issus de Belfast, mais indépendantistes, donc qui se battent contre le Royaume-Uni et qui le font savoir dans leurs textes. Alors, ils ont décidé de se raconter à travers un biopic où ils incarnent eux-mêmes leur propre rôle. Ils sont très jeunes, c'est un groupe, ils ont en moyenne 30 ans et ils ont réussi avec le réalisateur Rich Pepiat à nous raconter de façon bien sûr romancée et très folle leur histoire. Ils ont créé une légende autour de leur groupe. Il faut savoir qu'en ce moment ils sont en concert dans des festivals et ils sont un peu décommandés aussi parce qu'ils prennent position pour la Palestine. Ce sont des grands militants en fait, que ce soit dans leur texte ou dans le film. Alors dans le film évidemment on va retrouver toute leur histoire, tout leur militantisme, et ce qui est intéressant à retrouver dans ce film, c'est qu'il est en langue anglaise mais également en langue gaélique, parce que les vrais de vrais qui veulent l'indépendance tiennent à maintenir leur langue, le gaélique irlandais. On va avoir Michael Fassbender, ce grand acteur irlandais qui va passer une petite tête dans ce film, qui joue leur papa, parce que ce sont des frères qui sont membres de NICAP. Alors c'est un film un peu fou, c'est un film très drôle, c'est un film également très touchant, qui va prendre le parti vraiment de défendre les langues régionales ou de défendre les pays qui petit à petit disparaissent travers la mondialisation. C'est beaucoup plus riche que ce que ça donne à penser sur une bande-annonce un peu fiévreuse. On a adoré ce film, c'est un très grand coup de cœur. Ça sort dès aujourd'hui, c'est à 2 séances par jour et n'hésitez pas à venir vous faire surprendre parce que moi, dès que je les ai connus à travers le film, maintenant, je les écoute, nickel, ils sont vraiment très très chouettes.
Et vous continuez votre cycle Lynch.
Oui, tout à fait. Donc toute l'année, on a dit 2025 se passe avec David Lynch au cinéma Le Dietrich. Ça signifie qu'on fait un film de David Lynch par mois. Donc on arrive en 97, ça y est, hein, c'est le 6e film de David Lynch qu'on passe. C'est Lost Highway, qui est un des films les plus mythiques de son réalisateur, bien qu'il ait fait quasiment que des films mythiques. Un bunker chic et silencieux assis sur les collines de Los Angeles. Un couple, Fred, saxophoniste dépressif, c'est important à noter, et René reçoit une cassette vidéo de la façade de leur maison. Puis, une seconde vidéo filmée depuis leur chambre où on les voit dormir. Puis, une dernière qui suggère, dans un déferlement de sang, que Fred aurait assassiné sa femme. Alors c'est un film toujours entre rêve et réalité. C'est le grand travail de fin des années 90 de David Lynch qui commence, où là on va partir, voilà, on va commencer à poser les bases jusqu'à Mulholland Drive, ensuite du double, de l'évanescence, de l'incompréhension parfois aussi quand on est dans le public. C'est vraiment une expérience qu'on se tente. C'est une séance unique. Lost Highway, c'est demain, jeudi 19 à 21h, juste après l'Assemblée Générale du Dietrich qui a lieu à 19h et qui est ouverte à tous les adhérents de cette saison.
Merci beaucoup Candice, on te retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous cinéma. Et tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. Il est présenté par Thomas.
Bonjour à toutes et à tous, voici nos recommandations sorties du mercredi 18 juin. Le Café des Curiosités accueille un escape game à partir de 14h, ouvert aux 8 ans et plus, et organisé par l'Université de Poitiers, qui fournit la collection d'objets scientifiques qui sert pour le décor. Si vous voulez vous renseigner ou vous inscrire, c'est sur internet, sur science-société-univ-poitiers.fr dans la catégorie Escape Game, le Café de la Curiosité. Toujours à 14h, mais cette fois à Ligugé, la commune vous propose une visite guidée gratuite au cœur du patrimoine de Ligugé pour découvrir les secrets gallo-romains, monastiques ou modernes de la ville. Rendez-vous à 14h au bureau municipal du tourisme. Mais si vous avez un peu peur de la chaleur, toujours à Ligugé, toujours au bureau municipal du tourisme, mais cette fois à 14h30, vous avez un jeu d'énigmes grandeur nature, Le secret du manuscrit, où vous incarnez une personne en charge de la bibliothèque de l'abbaye, dont le livre le plus précieux a disparu. À vous de le retrouver. C'est 20€ pour participer, 15 si vous êtes résident ligugéen. Et enfin à 17h30, hôtel de l'archivage 7 rue Paul Guillon à Poitiers, Colline Olliard et Claude Andreau animent chacun une conférence historique. La première sur un personnage intrigant de l'histoire poitevine, le capitaine Gauthier, et la deuxième sur les documents historiques de la restauration du palais au milieu du 19e siècle.
Merci beaucoup Thomas, on te retrouve dès demain à 8h dans Espace Matin. Ce soir sur Pulsar, à 21h c'est l'Indépendance, votre émission Novo Pop, et à 23h c'est Sonokino. Au programme, un dogme danois, 2 musiciens serbes et 3 films européens, je vous laisserai découvrir. Merci Angélique pour la réalisation technique de cette émission. On se quitte avec Askel, c'est la compagnie d'Irapso qui était en résidence à Saint-Mexant-l'École pour ce nouveau projet. Voici le titre, Des Amours Toujours. Bon après-midi en musique.
Ce qu'on a manqué, je te promesse une de tendresse lors de tes mots, lors de tes mains, tes belles paroles aux douces caresses. La calipige, plus rien ne pige. Aux menteurs et autres chiens, il faut nous sentir comme des riens. Je ne vois pas ce qui fait votre grandeur. Vos grands airs si trompeurs. J'ai des promesses et des tendresses lors de tes mots, lors de tes mains. Mes belles paroles aux douces caresses. La calipige, plus les piges. maintenant ne me revient plus. Tes mots, adieu tes mains, les belles paroles, les douces caresses, la calipiche, plus rien n'est plus. Adieu promesses, mine de
les étoiles en plus.